France Info.
Bonjour Gilles Galou.
Bonjour.
Vous êtes cet ancien enquêteur de police judiciaire impliqué dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous publiez Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire chez Max Milo. Vous racontez cette affaire qui a bouleversé, vous le dites, votre vie et celle de votre famille. Qu'on comprenne bien qui vous êtes. En 2011, vous étiez enquêteur à l'Office central de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire au cœur de la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez travaillé sur l'analyse de ses pseudonymes, de ses identifiants, sur l'exploitation des connexions, des logs, des adresses IP, ainsi que des données des opérateurs internet et téléphoniques avant de vous retrouver devant la justice pour avoir partagé des écrits de Xavier Dupont de Ligonnès sur un groupe Facebook. Dans ce livre, vous démarrez en publiant une lettre inédite laissée par le fugitif le plus recherché de France. C'est une lettre d'adieu qu'il a pris soin d'envoyer à son ami Michel Rétif, qui n'est plus là aujourd'hui. Pourquoi ce livre, Gilles Galou, aujourd'hui ?
Pour tout vous dire, moi, j'ai jamais prévu d'écrire un livre sur l'affaire du Dupont de Ligonnès. J'avais même plutôt prévu de ne jamais en entendre parler de ma vie. C'est plutôt mon épouse qui m'a remis le pied à l'étrier.
Vous offrant un livre il y a 2 ans.
En m'offrant un livre, tout à fait par hasard. En fait, c'est le titre d'un livre qui m'avait interpellé. C'était un livre, dont le titre est « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ». Et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté d'une info pareille ? Même si j'habite toujours de l'étranger, je me dis quand même, je l'aurais su si quelqu'un l'avait retrouvé. Et j'ai machinalement cliqué sur mon téléphone et j'ai dû, sans le faire exprès, ajouter ce livre au panier de mon compte Amazon. Et ma femme a cru que j'étais intéressé par le sujet, elle me l'a commandé et elle me l'a offert 2-3 jours plus tard. Donc j'ai pris ça comme un signe du destin en disant, c'est pas possible, l'affaire me revient entre les mains, je vais lire le bouquin. J'ai lu le bouquin et ça m'a un petit peu... Parce qu'en fait, c'est un roman, donc moi, j'étais plus intéressé par l'aspect factuel de l'affaire. Et j'ai contacté l'auteur, en fait. Ce que j'ai jamais fait de ma vie, j'ai jamais contacté l'auteur d'un livre. Et puis, il a répondu, et puis on a commencé à correspondre ensemble, puisque lui aussi, c'était un ancien flic. Et comme il était assez passionné de l'affaire, on a repris un petit peu tous les deux des premières recherches.
Cette affaire, vous le dites, elle a bouleversé votre vie et votre vie de famille également. C'est vrai que c'est une énigme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui tient toujours en haleine tous les Français et qui va même au-delà des frontières françaises. On a du mal à comprendre comment c'est possible.
Qu'on ne sait toujours pas,
même si votre livre nous donne des indices, ouais. Et qu'on comprend qu'il y a peut-être un jour, on aura peut-être une explication et peut-être qu'un jour, on ira le chercher.
Moi aussi, comme vous, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible et j'ai essayé de comprendre comment moi, j'avais enquêté. J'ai toujours eu ce sentiment que j'avais peut-être pas été au bout des choses en 2011 quand j'étais enquêteur, puisque nous, on était chargés uniquement du volet cyber, numérique. En tout cas numérique. Et on nous a retiré le dossier parce qu'on avait fait un petit peu le tour, on s'était un petit peu enlisé dans tous ces écrits théologiques. Et puis les dossiers ont repris le dessus. Et donc en novembre 2011, moi, j'ai abandonné le dossier avec une petite frustration de dire voilà, on n'a pas été au bout. Et j'avais le sentiment d'avoir encore des choses à vérifier.
Alors ce que vous avez fait, c'est que vous avez effectivement décidé de recommencer au début, de reprendre le dossier, enfin là où vous étiez arrêté en novembre 2011, de retourner vérifier. Vous êtes retourné sur les lieux où tout a démarré pour, avec du recul, tenter de trouver des indices qui vous auraient échappé et qui peut-être étaient sous vos yeux. Racontez-nous le travail que vous avez décidé de faire.
J'aurais jamais imaginé faire un travail comme ça le premier jour où j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait une recherche Google sur Grunt sur Argence. J'aurais jamais imaginé que j'allais écrire un livre non plus. La première chose que j'ai faite, c'est j'essaie de dire, je vais retourner à l'endroit précis où on a perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011, sur le parking de l'hôtel Formule 1. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris ma souris, mon ordinateur et je me suis transporté virtuellement sur le parking. Et donc aujourd'hui, avec Google, on peut voyager dans le temps, vous savez, on peut définir la date. Et donc je me suis remis en 2011 et j'ai imaginé que j'étais dans les yeux de Xavier Dupont de Ligonnès et j'ai marché avec mes petits clics précisément là où il a marché. Et donc on peut regarder l'environnement. Alors ce qui choque, la première chose qui choque quand on est là-bas, évidemment, c'est la présence du rocher qui domine tout le paysage. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut se demander pourquoi Ligonnès a précisément décidé de disparaître à cet endroit-là, devant cette montagne. Et la deuxième chose qui impressionne, c'est la présence de tous ces vendeurs de voitures d'occasion et de vendeurs de camping-cars qui bordent la Nationale 7. Ça m'a tout de suite impressionné. Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès est venu disparaître dans un endroit où on ne vend que des voitures d'occasion, où on peut louer des camping-cars? Donc évidemment, l'hypothèse d'un camping-car, pour moi, c'était vachement important parce qu'un camping-car pour un fugitif, c'est un outil formidable pour disparaître.
Vous avez donc refait tous les trajets aussi, Saint-Nazaire, Nantes, Roquebrune-sur-Argens. Donc vous avez observé les distances réelles, vous avez confronté les récits, vous avez revisionné les images des caméras de surveillance, vous avez découvert beaucoup d'incohérences. Quelles sont les incohérences les plus importantes selon vous?
Alors, j'ai imaginé qu'il fallait que je reprenne l'enquête de voisinage parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait encore des choses à trouver et j'ai interrogé tous ces gens qui bordent la N7. Et j'ai commencé à enquêter sur ces sociétés de camping-car. Et il y en a une qui m'a interpellé, qui s'appelle Hippocamp. En grattant sur les historiques des sociétés, j'ai découvert que cette société Hippocamp de Roquebrune est connectée avec une société qui s'appelle Hippocamp, la même, à Orvault, dans un banlieue de Nantes, précisément dans la zone commerciale où Xavier Dupont-Ligonnès a acheté tout le nécessaire pour enfouir les corps. Donc là, c'était vraiment un lien direct entre Nantes et Roquebrune qui pouvait expliquer peut-être cette descente. C'est-à-dire que j'ai commencé à émettre l'hypothèse que Xavier Dupont-Ligonnès aurait pu louer un camping-car et le retirer dans l'agence de Roquebrune-sur-Argens.
Vous nous aidez à remonter les débuts de l'affaire, parce que c'est important qu'on ait tous les éléments et qu'on comprenne votre cheminement de ce massacre familial avec une chronologie qui nous permet de vivre presque en temps réel, d'ailleurs, effectivement, ce qui s'est passé. À commencer par les premières inquiétudes, alors que Xavier Dupont-Ligonnès semble avoir tout bordé en envoyant des lettres à ses amis, mais aussi aux écoles dans lesquelles ses enfants étaient scolarisés. Ce qui frappe, c'est le sang-froid et la manipulation. Ça glace le sang par moment, d'ailleurs, Gilles Gallou. On comprend à quel point ça vous hante vous-même, ça. Ce sang-froid, cette minutie, c'est presque de l'orfèvrerie.
Moi, je suis père de famille. Et je pense que cette affaire aussi passionne les Français parce que justement, on se sent tous impliqués. Quel est le père de famille qui peut tuer comme ça de sang-froid ses enfants? Je suis prudent puisqu'il est toujours présumé innocent. Tant qu'il n'est pas condamné, il n'est pas coupable. Effectivement, tout le désigne. Mais je garde toujours cette petite porte, on ne sait jamais.
Au départ, il a tout raconté comment il a été obligé de fuir. Il a évoqué qu'il faisait partie de services secrets, qu'il avait été engagé, qu'il a été exfiltré. Et ce qui est fou d'ailleurs, ce qui saute aux yeux dès le départ, dès le début de cet ouvrage, c'est l'incrédulité des personnes qui ne voyaient pas ou qui ne voulaient pas voir. Ça heurte quand même Gilles Gallou. Et on sent que c'est aussi l'une des explications que vous aimeriez avoir.
Oui, alors, c'est ça qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de lettres. Et finalement, mon travail a consisté à revenir sur des choses que j'ai pas fait moi à l'époque en 2011, parce que moi j'étais focalisé sur la cavale et essayer de retrouver ces traces numériques. Et aujourd'hui, à la retraite, avec plus de temps, j'ai récupéré ces documents de l'époque. Et il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup d'écrits. Mon travail a consisté justement à discerner le vrai du faux. Puisque en fait, effectivement, dans ces lettres, on voit bien qu'il y a une histoire d'agent secret qui est absolument incroyable. Mais je pense que dans ces lettres, il y a aussi du vrai. Et justement, j'ai essayé de discerner quel est le message que Xavier voulait, je l'appelle Xavier d'ailleurs, tellement je travaille sur lui que j'ai fini par l'appeler Xavier, de discerner le vrai du faux. Et j'ai fini par essayer de comprendre un petit peu en amont d'où la bascule s'est faite. Et pour moi, il y a deux dates qui sont cruciales, qui sont 1990 et 2003. Et c'est lui-même qui en parle. Parce que finalement, quand on regarde bien les lettres, c'est lui-même. Il faut imaginer un homme qui viendrait tuer toute sa famille et dans les deux ou trois jours qui suivent, écrit une lettre en faisant état de 90. C'est-à-dire, il écrit une lettre à Michel Rétif, c'est ce que je mets dès le début du livre, en disant, sans manquer d'humour, « Si vous savez pas où je vais là où on était tous les deux en 1990. Indice à creuser, lol. » Déjà, la forme d'humour, quand on vient de tuer quelqu'un, c'est quand même, il faut avoir un cerveau. Voilà, il y a une certaine froideur. Mais je trouve que sur ce passage précis, il y a même une sorte de provocation aux enquêteurs. Quand il dit « indice à creuser », si c'est pas une provocation, je sais pas ce que c'est. En tout cas, cette phrase « indice à creuser », moi, m'a interpellé et j'ai vraiment voulu comprendre de quoi il parle. C'est-à-dire, quand il dit « on était là-bas tous les deux en 90 », il faut savoir où est-ce qu'ils étaient. Donc ça, j'ai trouvé précisément où est-ce que Michel Rétif et Xavier Dupont-Ligonnès étaient ensemble en 1990. Donc ça, c'est passionnant, parce que maintenant, je sais où ils étaient, mais c'est pas tout. Après, il y a l'autre connexion avec 2003. En 2003, c'est passionnant parce que, pareil, on est en 2011, il vient de tuer sa famille, il écrit on va être exfiltré aux États-Unis. Et il parle de 2003. Pourquoi? Quel est le rapport? On sait qu'en 2003, ils se sont expatriés aux États-Unis, toute la famille. Donc, quand on s'expatrie, c'est pour la vie. En tout cas, lui, c'était son rêve de partir aux États-Unis. Et quelque chose s'est passé là-bas, puisque de toute façon, ils sont rentrés plus vite que prévu. Au bout de 3 mois, ils étaient déjà rentrés en France. Alors, personne ne sait, moi j'ai entouré tout son entourage, il s'est passé quelque chose qui a précipité leur retour. Et dans la lettre, qui s'appelle « Coucou, on part aux États-Unis », il dit « Vous n'avez jamais cru qu'on est rentré parce qu'Agnès ne voulait pas vacciner les enfants. C'est plutôt à cause des agents secrets. » Alors, est-ce qu'il a rencontré des agents secrets ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose en 2003. Ça, c'est les deux grandes dates. Après 2003, si on observe la chronologie des faits, la chronologie, c'est un travail que j'ai fait pendant des mois et des mois. Finalement, la chronologie, c'est un outil de travail. Si vous regardez 2003, après le couple périclite, c'est-à-dire qu'en 2005, ils se séparent. Xavier quitte le domicile conjugal, il va aller s'héberger chez des copains que j'ai rencontrés d'ailleurs. Il a été se confier, des copains qui n'ont jamais rencontré un seul journaliste d'ailleurs, donc pour moi c'était absolument passionnant d'avoir des longues discussions avec eux parce que j'ai appris énormément de choses sur l'homme, pas sur le criminel. Parce que finalement, il est très sympathique. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est ça qui est paradoxal pour moi, c'est que je chasse un criminel et tous les gens que je croise me disent « mais il était super sympa, Xav ». Est-ce qu'ils l'appellent tous Xav? C'est même dur à comprendre, parce que moi, je chasse un criminel, et eux, ils me disent, mais non, mais c'était notre pote, il était super, on buvait des coups, voilà.
On se demande d'ailleurs où est la frontière entre le fait qu'il puisse rentrer dans la vie de famille, ce lien d'amitié qu'il pouvait avoir et comment on fait pour garder sa ligne d'ancien enquêteur.
Alors là, moi, j'ai aucun problème avec la ligne, elle est très claire. Même si je parle avec des gens très proches de Xavier, j'ai aucun problème avec ça, avec cette ligne.
Ce qui ressort, c'est quand même son machiavélisme et vous essayez de comprendre. Vous nous donnez un peu son parcours, son pédigré. Vous nous racontez son histoire de famille avec cette mère omniprésente qu'il considère comme un enfant divin, ce qui a été très lourd à porter pour lui. Vous nous racontez comment un jour il a été la voir en lui disant qu'il n'avait plus la foi, lui qui avait été élevé dans cette foi. Mais en même temps, une foi qu'il a quand même conservée avec des liens sur tout ce qui pouvait toucher au catholicisme. Finalement, qui vous a obligé d'ailleurs à faire aussi un travail théologique.
Alors justement, quand j'ai enquêté en 2011, c'était même pratiquement 90% de mon enquête. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends bien compte que je me suis épuisé à essayer de comprendre tous ces textes philosophiques qu'il a pu écrire. Et non, aujourd'hui, pour moi, on s'est perdu dans tout ça. C'est une fausse piste, la théologie.
Et en même temps, vous l'avez totalement étudié, à vérifier chaque mot, chaque indice. La police a pris les choses en main au bout de quelques jours, parce que des gens étaient inquiets, des personnes étaient inquiètes. Même à l'école, ils étaient très inquiets. Et cette police a découvert que les téléphones des enfants ne bornaient plus depuis le 4 avril, alors que celui du père fonctionnait parfaitement. Ils se sont rendus compte aussi qu'il avait acheté des sacs de chaux vive, une bêche, des sacs de gravats, une houe lorraine, du ciment. Ils comprennent alors qu'il faut retourner dans la maison et ils mettent du temps, finalement, Gilles Gallou, à trouver les corps. Il faut qu'une enquêtrice s'interroge sur l'emplacement d'une gamelle de chien pour comprendre qu'il y a quelque chose en dessous, là où le terrain, effectivement, est meuble.
C'est pas exactement la gamelle du chien qui déclenche la découverte. C'est la réception par les enquêteurs d'un relevé bancaire où ils s'aperçoivent qu'il y a une ligne du relevé de compte qui est passée au Castorama et au Jardiland, où ils voient qu'il a acheté des sacs de chaux, qui déclenche l'idée que s'il y a des sacs de chaux, il y a nécessairement des cadavres derrière, puisque la chaux sert à enterrer les cadavres. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont trouvé ça...
Et à masquer les odeurs aussi.
À masquer les odeurs, voilà. Et donc, à partir de l'instant où ils découvrent ce relevé bancaire, ils décident de retourner en perquisition. Et ce qui est amusant, entre guillemets, c'est qu'en même temps qu'ils sont dans la perquisition, il y a cette conférence de presse par le procureur Ronsin du tribunal de Nantes. La découverte survient pendant cette conférence de presse qui est interrompue. Et c'est ce qui fait qu'on aura toutes ces images après, puisque les journalistes sont déjà sur place. Tout le monde a gardé cette image avec cette bâche noire dépliée devant la maison. Et après, tous les journalistes qui, toute la journée, vont compter un à un les corps sortir du domicile.
Dès le départ, Michel Rétif et d'autres savent qu'il va en manquer un. Que Xavier Dupont de Ligonnès ne fera pas partie des cadavres qu'on va découvrir effectivement enterrés. Et effectivement, cette conférence de presse, à la base, elle est destinée à lancer une alerte de recherche de famille, et ça devient une recherche de tueur.
C'est exactement, la bascule se fait pendant la conférence de presse. Au sujet de Michel Rétif, c'est intéressant parce que moi j'ai rencontré quelqu'un de très proche de Michel. J'étais chez lui en 2011, c'est moi qui étais présent pendant la perquisition, donc Michel, je l'ai connu, on l'a interrogé longuement. On l'a soupçonné aussi très longuement. Et donc moi, j'ai parlé avec quelqu'un... Aujourd'hui, il est décédé, Michel, il s'est suicidé. J'ai parlé avec quelqu'un de très proche qui était présent, justement, quand il y avait cette diffusion en direct sur les chaînes d'infos de la sortie des corps. Il m'expliquait qu'ils étaient assis dans leur canapé et ils comptaient les corps un par un. Et ils savaient que s'il n'y en avait pas 6, ce serait clairement Xavier le coupable. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté à 5, donc il manquait forcément le corps de Xavier.
Les 5 et les 2 labradors.
Et les 2 labradors.
Précise, parce que c'est vraiment toute la famille et tout ce qui englobait cette famille. On est le 21 avril 2011, quand les corps sont découverts. Je voudrais juste que vous me racontiez comment vous vous retrouvez à la suite d'un coup de téléphone dans cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Qui pour vous, d'ailleurs, vous l'écrivez, n'est pas un cadeau.
Moi, je ne suis pas un enquêteur de la brigade criminelle. Moi, je suis un chasseur de hackers de l'Office central cybercrime. Et donc moi, mon travail, c'était plutôt de chasser des voyous sur les réseaux informatiques que de chasser un criminel, mais effectivement, les criminels utilisent aussi les réseaux informatiques, et c'était le cas de Xavier Dupont-Ligonnès, puisqu'il avait 21 sites internet. Et donc moi, cette semaine-là, pour vous dire jusqu'au début, quand l'affaire a éclaté le 21 avril 2011, j'étais en vacances à l'étranger, et il s'est trouvé qu'à l'endroit où j'étais, il y avait une chaîne d'infos qui diffusait les informations, et il y avait un bandeau qui parlait d'une affaire criminelle française. Donc ça m'a interpellé, j'ai vu ces images avec la bâche noire déployée devant la maison. En rentrant en France, j'étais justement de permanence cette semaine-là à la direction centrale de la PJ. Donc ma petite semaine de permanence se passe bien, j'ai pas de nouvelles saisines, et le vendredi soir, avant de partir chez moi, je range mes affaires, je prends ma sacoche d'ordinateur avec moi, et au moment de sortir du bureau, j'ai mon téléphone qui sonne, je décroche, et c'était un collègue de la PJ Nantes qui me dit « On a besoin de vous pour trouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès dans les forums Cité Cato ». Et c'était pas un cadeau, effectivement.
Là, vous allez déjà commencer par répertorier tous les pseudonymes qu'il peut avoir. C'est 23 sites internet,
ouais.
Cité 23, et vous vous rendez compte très rapidement qu'il se connecte toujours avec le même ordinateur.
Oui.
Ça va être un élément clé pour vous.
Ouais, c'est super important parce que effectivement, on découvre qu'ils se connectent sur Cité Catholique et malheureusement, après le 21 avril, des milliers d'internautes se connectent sur ce site pour essayer de le retrouver eux-mêmes. Et finalement, c'est un petit peu comme si vous faisiez traverser un troupeau de vaches sur une zone de crime. C'est-à-dire que on se retrouve avec des millions, 5 millions de connexions sur la période à analyser. Retrouver la trace de Xavier Dupont-Ligonnès dans 5 millions de lignes, c'était une catastrophe. Mais on avait quand même un indice de départ qui était qu'il avait posté un dernier message le 8 avril. Et donc, en analysant cette ligne de code, j'ai pu déterminer le type de machine qu'il utilisait, qui était d'ailleurs obsolète pour l'époque, puisqu'à l'époque, on était déjà, pour ceux qui connaissaient, on était déjà passé à la version de Windows 2000. Et lui, il utilisait encore un vieil ordinateur Toshiba qui était sous Windows 95, qui avait la particularité d'afficher des codes précis. Et donc, à partir de cette ligne, qui m'a servi plus tard pour pouvoir filtrer toutes ses propres connexions.
On se rend compte assez vite qu'il a toujours une distance d'avance.
Une longueur d'avance.
Dans un premier temps, certes, vous voulez le retrouver, mais vous tentez aussi de retrouver son véhicule, une Citroën ouais. C5. Et d'ailleurs, on a en mémoire tous cette photo où effectivement, il a été flashé au volant, où on le voit au volant, qui va être retrouvé sur un parking.
Le 21 au soir.
Voilà, ouais. Et on a tous en tête cette image, effectivement, de Xavier Dupont de Ligonnès avec...
avec cette sacoche.
Avec cette sacoche, et puis ce livre de quelqu'un qui part en cavale. On a l'impression presque de début jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui encore, il toise les enquêteurs, il laisse des indices que là où ça l'intéresse d'en laisser, et que ça devient un fantôme. C'est très, très, très perturbant, en fait.
Alors moi, à force de travailler sur cette affaire, et à force de rencontrer beaucoup de gens qui l'ont connu, beaucoup m'ont expliqué que Xavier était très gentil, mais c'était aussi un grand manipulateur. Moi, j'ai lu beaucoup de ses écrits parce que c'était un homme qui s'écrivait à lui-même. Il était visiteur d'hôtels mystères, il utilisait d'ailleurs beaucoup de différentes identités pour visiter les hôtels. Mais il était capable, moi je me souviens d'avoir lu un document où il s'écrivait à lui-même un rendez-vous qu'il avait le lendemain. C'est-à-dire qu'il était capable d'écrire le rendez-vous de A à Z, c'est-à-dire du bonjour. Il imaginait la réponse de son interlocuteur et il développait 4 ou 5 pages d'entretien jusqu'au au revoir. Et donc ça m'a interpellé parce que qui est-ce qui est capable d'écrire des scénarios pareils? Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas écrit le scénario des crimes de A à Z? Et je pense aujourd'hui vraiment que tout est écrit et que finalement il adapte le scénario en fonction des aléas qui surviennent. Il doit gérer ce qui se passe. Mais le scénario de base est écrit. Et c'est ce qui se passe précisément dans une nuit qui est particulièrement intéressante pour moi, enquêteur. C'est la nuit des crimes où Thomas est assassiné. La nuit du 5 au 6 avril est absolument incroyable. Autant dans la nuit des meurtres présumés du dimanche au lundi, on a quasiment aucune info numérique. Mais par contre, dans la soirée des meurtres de Thomas, on a tellement d'infos qu'on peut pratiquement arriver à se mettre dans sa tête pour savoir ce qu'il fait. C'est passionnant d'ailleurs. Du point de vue de l'enquête.
Et on ne comprend pas comment un être humain peut réaliser ça.
C'est-à-dire
il a tué une partie de la famille, il attend que son fils revienne, il l'emmène manger, il l'emmène au cinéma. Enfin,
ça, c'est la veille, mais, voilà. Mais le soir du crime, il va même s'acheter un beefsteak et une bouteille de grand vin, du roquefort. Enfin, il s'achète un repas déjà pour lui tout seul. Ça veut dire qu'il y a...
Il les célèbre quelque chose, en quelque sorte.
Je ne sais pas s'il célèbre. En tout cas, il gère son petit truc et il y a un aléa qui survient. C'est son ami Emmanuel Tenner qui lui écrit dans cette période qui précède les 2 heures de l'arrivée de son fils qui était encore resté à Nantes. Il reçoit un mail de son ami qui lui écrit qu'il va pas bien et qu'il envisage de se suicider. Donc faut imaginer qu'il a déjà appelé son fils à Nantes en lui disant il faut que tu rentres parce que maman a eu un accident de vélo. Donc le gamin est dans le train. Dans les mêmes minutes, il y a son copain qui dit je vais me suicider, mais pourquoi tu veux te suicider à ce moment-là? J'ai vraiment autre chose à faire. Enfin, si on se met dans la peau de Ligonnès. Donc il faut qu'il gère le truc parce que il y a son fils qui arrive et il faut le, c'est la fin, quoi. Donc, il envoie une série de mails aux amis de Tenner pour leur demander de gérer le copain, qui est à quelques kilomètres de chez lui. Un type qui est normal, il aurait sauté dans sa voiture, il aurait été chez son copain pour l'empêcher de faire une connerie. Mais là, il peut pas, parce qu'il a quelque chose d'autre à faire.
Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est un être particulier. Certains le considèrent comme étant un génie, parce qu'il est introuvable.
Lui-même se considère comme un génie, surtout.
Mais vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, pourquoi?
Alors, je vais vous dire la vérité, c'est pas que je lâche pas, j'ai voulu lâcher des dizaines de fois. Ça fait sourire mon épouse parce que je lui ai souvent dit « bon, j'arrête, j'en ai marre ». Et à chaque fois que j'ai arrêté, il y a toujours un truc qui est arrivé, qui fait que ça a relancé l'affaire. C'est finalement, cette affaire, c'est un petit peu comme un alignement. Il y a des choses qui me sont arrivées malgré moi. Par exemple, je vous dis la vérité, ce livre, j'avais déjà fini l'écriture il y a quelques mois, au moment où j'ai déterminé que Xavier avait traversé l'Atlantique. J'ai dit « voilà, moi, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire ». Je suis arrivé à un aéroport américain. Voilà, qu'est-ce que je peux aller faire aux États-Unis? C'est immense. J'arrête. Et donc, j'ai arrêté. J'ai rangé toutes mes affaires. J'ai dit, ça y est, c'est terminé. J'envoie mon manuscrit aux éditeurs. Et entre-temps, j'ai des nouvelles infos qui me tombent et je suis retombé dans le truc pour poursuivre.
Alors, parlons de ces nouvelles infos, parce que c'est ce qui nous intéresse inévitablement. Ouais. À quel moment vous redéclenchez justement le processus? Vous avez vérifié toutes les pistes.
J'avais tout vérifié.
Tout ce qui est vérifié. Pour vous, il est vivant. Vous savez quasiment où il est. Enfin, en tout cas, vous êtes persuadé qu'il est à un endroit du monde particulier.
En tout cas, qu'il y était. Je ne sais pas s'il y est toujours. Mais j'ai l'impression qu'il est dans la région où je vais bientôt aller pour vérifier.
Racontez-nous à quel moment ça bascule.
Ça bascule le jour où je découvre l'existence d'un vol depuis l'aéroport de Nice vers les États-Unis. Un vol que lui avait l'habitude de prendre avec Michel dans les années 90. Quel est le meilleur endroit pour échapper à la police que de passer par un aéroport qu'on connaît bien, par un vol qu'on connaît bien aussi. Donc, et en fait, je pense que ce vol, moi je me souviens à l'époque en 2011, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc ça, c'était une découverte majeure, la découverte de ce vol Delta Airlines, Nice-New York, un vol saisonnier qui a ouvert justement quelques jours avant les meurtres. J'imagine aussi que s'il est passé par ce vol, il pouvait donc pas passer à l'acte avant l'ouverture de ce vol, puisque c'est un vol qui ne sert qu'à faire venir les touristes américains sur la Côte d'Azur. Et donc, la difficulté, c'était de savoir s'il avait pris ce vol. Mais de toute façon, je pourrais jamais le savoir puisqu'il s'est passé 15 ans et il n'y a plus personne qui a aucune donnée. Donc moi, je sais de toute façon qu'en 2011, on n'avait pas la liste des passagers. On a cherché Xavier Dupont de Ligonnès, mais je pense qu'il n'aurait jamais embarqué sous son vrai nom. Donc la liste des passagers, je ne l'aurais jamais. Donc j'avais deux solutions. Soit je dis j'arrête tout, ce que je voulais faire, ou soit je dis voilà, je prends l'hypothèse qu'il était sur ce vol et je vais à l'étape d'après, j'ouvre les portes de l'aéroport de New York, je prends un taxi et je continue. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai continué. Et de nouvelles pistes sont arrivées devant moi jusqu'à aujourd'hui et je vais aller vérifier dans quelques jours où se cache Xavier Dupont de Ligonnès et j'espère bien trouver une empreinte de sa chaussure sur une plage de San Francisco ou sur une plage de Floride, je sais pas. Mais si je trouve ne serait-ce qu'une empreinte de lui, j'aurais gagné.
Ce qui est fou, c'est l'espoir. On vit entre l'espoir et le désespoir dans cet ouvrage.
Ouais.
À chaque fois, effectivement, il y a des portes qui se ferment et une autre porte qui s'ouvre. Au dernier moment, d'ailleurs, alors qu'on n'y croit plus du tout. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est qu'on était tous persuadés qu'il était mort. Et à travers cet ouvrage, on se dit non, il n'est pas mort.
C'est vrai, vous étiez persuadé qu'il était mort. Moi, j'ai jamais été persuadé. C'est vrai,
moi, jamais. Mais là, on a espoir de le retrouver, au moins pour avoir des explications. Parce que finalement, c'est la France entière qui a besoin de faire son deuil.
Ouais, l'hypothèse qu'il soit mort, moi, je l'ai toujours dans la tête. Hein. Il s'est peut-être suicidé depuis. Moi, je crois pas une seconde qu'il se soit suicidé à Roquebrune. Il n'y a aucun élément pour moi qui marque l'idée d'un suicide. Et je pense que d'ailleurs, la dernière scène qu'il nous a offert, c'est un scénario. Ne serait-ce que le retrait de 30 euros au distributeur, ça démontre quelque chose. Déjà, il nous montre qu'il est là. Puisqu'en fait, Xavier, il a cessé d'exister pour les yeux des enquêteurs à partir dans sa descente de Rochefort, donc au sud de La Rochelle. On était aveugle, sauf que moi, j'avais encore à l'époque ces connexions 3G. Mais finalement, on était presque aveugle. Et en allant retirer 30 euros au distributeur, il dit « je suis là ». Donc nous, ça oriente l'enquête sur Roquebrune et ça déclenche effectivement une fiche de recherche. Et les gendarmes vont finir par retrouver sa bagnole sur le parking. Mais s'il n'était pas allé retirer ses 30 euros, on ne l'aurait jamais retrouvé déjà dans cet endroit-là. Donc je pense que Xavier, il maîtrise parfaitement ses apparitions. Et le retrait des 30 euros, c'est pour dire « j'ai plus d'argent, je suis fauché, je suis au bout de ma vie, je vais dormir dans un hôtel vraiment pas cher, vous voyez, je suis au bout et il ne me reste plus qu'une seule solution, c'est de me suicider ». Je ne crois pas du tout à ce scénario.
Pour vous, il est aux États-Unis ?
Écoutez, je ne sais pas où est Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai des pistes aux États-Unis, je ne vais pas aller le chercher sur tous les continents. Je vais aller quand même vérifier si... s'il est là-bas, ouais.
Je voudrais que vous me parliez juste de cette femme que vous recherchez, qui pour vous possède clé, sans doute des clés. Ouais.
Il est possible qu'elle détienne une clé cruciale.
De qui s'agit-il et comment vous avez découvert son existence?
Je ne vais pas trop m'étendre sur cette piste parce que normalement j'aurais déjà dû aller aux États-Unis. Le voyage est en cours de préparation. Il semble que ce soit une femme qui ait connu Xavier dans les années 90, donc précisément à l'endroit qu'il a désigné. Puisque finalement, quand on étudie la lettre que j'ai publiée au chapitre 1 de mon livre, il est à un endroit des États-Unis, il parle même d'un ranch. Et donc, moi, j'ai retrouvé effectivement plusieurs femmes qui ont connu Xavier à cette époque-là, et Michel, les deux. Et toutes ces femmes me parlent de cette femme qui s'appelle Laura. Tout le monde me dit, si tu veux savoir quelque chose, c'est elle qu'il faut retrouver. Et donc, je l'ai cherché énormément, parce que cette femme n'existe nulle part. C'est difficile aujourd'hui, en 2026, de ne pas exister sur Internet. Et je l'ai retrouvée de manière absolument incroyable. J'ai réussi à définir qu'elle appartenait à une certaine famille locale. Sur un site local, j'ai trouvé un gâteau d'anniversaire en photo sur lequel il y avait écrit son prénom et la première lettre de son nom de famille. C'est un gâteau qui m'a permis de retrouver la piste de cette Laura. Et une fois que j'avais le gâteau, je suis remonté. Aujourd'hui, je sais précisément où elle habite. Je connais tout sur elle et donc je vais aller la voir.
En tout cas, est-ce que vous n'avez pas peur que vos révélations, parce que vous parlez des journalistes aussi, de cette guerre entre guillemets d'informations qui peut exister entre les enquêteurs et les journalistes, cette course d'informations qui parfois vient polluer les enquêtes inévitablement.
Ouais, ouais.
En même temps,
tout le monde fait son métier, je pense.
Voilà, c'est
les journalistes font pratiquement le même métier que nous, hein, donc effectivement, c'est une sorte de course.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous court-circuite?
Alors, moi, je donne aucun élément qui permet de retrouver Laura. Bien, serait très, très fort celui qui arriverait à trouver Laura à partir de mon livre. Je garde quand même ça pour moi. Et pour vous, puisque si je la trouve.
Mais si lui,
vous
par contre, il a connaissance de cet ouvrage, est-ce qu'il ne va pas tenter de la faire taire, entre guillemets, ou de l'empêcher de parler?
C'est un risque.
Selon vous, qu'est-ce qui a motivé, même s'il est toujours présumé innocent, qu'est-ce qui aurait motivé que Xavier Dupont de Ligonnès puisse tuer sa famille?
Ouais.
On découvre effectivement cet adultère, cette relation avec Michel Rétif. On découvre les difficultés qu'avait eu le père, d'ailleurs, qui est un peu ce qu'il a reproduit, sauf que son père n'avait pas tué ses enfants. Son père avait, je le rappelle, abandonné ses trois enfants, son épouse, en laissant énormément de dettes.
Moi, je pense qu'effectivement, la déchéance financière est le mobile, mais ça ne suffit pas à expliquer le drame. Il y a beaucoup de gens en France qui sont en déchéance financière et qui tuent pas leurs enfants pour ça, heureusement. Je pense qu'il faut aller chercher la source en 2003. 2003, ce voyage aux États-Unis interrompu. Je pense que c'était le rêve absolu de Xavier de se réaliser aux États-Unis. Il a été interrompu. Et lui, dans sa lettre, il parle d'Agnès. Est-ce que Agnès, elle n'aurait pas brisé son rêve pour une subtilité, l'histoire de vaccin? Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont rentrés. Et quand on regarde bien la chronologie, depuis qu'ils sont rentrés, après, ça ne fait que péricliter. Le couple va mal, les finances vont mal et jusqu'à la fin. Puis finalement, après, ça déclenche sa nouvelle relation avec sa maîtresse en 2009. Et après, ça s'enchaîne puisqu'il emprunte de l'argent à cette maîtresse qui pourra jamais rembourser.
Et là, il demande finalement quasiment que de l'argent à ses maîtresses. Enfin,
ouais, il survit, ouais, exactement. Ouais. Et puis, à force d'emprunter de l'argent partout, de toute façon, à un moment donné, ça le rattrape. Et en juillet 2010, il l'écrit d'ailleurs à ses deux amis. En gros, il leur explique qu'il va tuer toute la famille ou se foutre en l'air lui-même. Donc, il y a déjà des signaux d'alerte que ses copains ne captent pas du tout. D'ailleurs, et je ne sais pas comment ils ont vécu ça après, puisqu'il leur dit clairement qu'il va faire une grosse connerie. Et puis donc, à partir de juillet 2010, c'est la chute totale, vertigineuse. À Noël, il l'écrit, il n'a même pas d'argent pour acheter des cadeaux à ses enfants.
C'est sa mère
qui lui prête de l'argent. Il y a la mort du père, en janvier, où il trouve la carabine. Mais je pense que la carabine, il avait déjà une petite idée pour la récupérer. Et après, ça s'enchaîne jusqu'à cette période qui précède les crimes en mars. Ça, c'est un truc absolument incroyable que j'ai trouvé. Il y a, pour moi, un moment qui déclenche...
Un moment clé, oui. Un moment
de
bascule.
Qui déclenche le fait... Parce que, bon, je pense que l'idée de faire disparaître la famille était là depuis plusieurs mois. On voit qu'il n'était pas encore fixé sur la date. Et il s'est passé quelque chose dans cette nuit du 30 au 31 mars qui fait que quand il est rentré, il a annoncé pour la première fois son départ aux États-Unis à une ancienne copine de jeunesse, en lui disant, voilà, j'ai un départ imminent. C'est ce soir-là même où il a fait la lettre de résiliation du bail, alors qu'ils étaient tous encore dans la maison. Et puis le lendemain matin, il est parti acheter tout le nécessaire. Donc dans cette nuit-là, où justement il a éteint son téléphone, c'est ce que je dis toujours, hein, il maîtrise ses apparitions et ses disparitions. Et donc il a disparu pendant de nombreuses heures, pendant lesquelles il y avait justement une nuit d'hôtel qu'il avait réservée à Saint-Nazaire. Alors qui a dormi dans cet hôtel, lui ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans ces heures qui ont précédé les événements, qui lui ont donné le signal. Alors, est-ce qu'il a reçu de l'argent de quelqu'un? Est-ce qu'il a reçu un passeport? Est-ce qu'il a eu... Je ne sais pas.
Ça, c'est toujours la question que vous posez d'ailleurs, de savoir s'il avait ou pas un complice.
Ouais.
Il y a quand même des choses qui sont...
Je garde toujours l'hypothèse de ça.
Ouais. Michel Rétif, par exemple, était borné au même endroit que lui.
Ouais.
Il y a des explications que vous n'avez jamais obtenues. Il y a des téléphones où certains ont réinitialisé, donc les données ont été définitivement perdues. Des moments de désespoir que vous vivez. Il y a des moments qui font froid dans le dos, comme cet ami qui se rend compte que Xavier Dupont de Ligonnès lui a dit qu'il avait laissé les clés au-dessus d'un compteur EDF. Il vient voir, elles n'y sont pas. Le lendemain, elles y sont. Il comprend qu'à ce moment-là, il était encore dans la maison.
Ah, ils ont failli se croiser, ouais.
C'est extrêmement haletant.
Mais il y a des histoires absolument dans ce livre, ou dans cette affaire, qui sont absolument incroyables. Des coïncidences hallucinante. Et des fois, on se demande comment c'est possible qu'il y ait des coïncidences pareilles. Ouais.
Qu'en pense la police judiciaire aujourd'hui, le fait que vous continuez votre travail et que vous essayez encore aujourd'hui de le retrouver?
Je vais vous dire la vérité, il y a eu un moment dans mes recherches où j'ai commencé à trouver de nouveaux témoins. Je me suis dit, je vais partager mes informations avec mes anciens collègues. Et j'ai trouvé porte fermée. J'étais très déçu, mais d'un autre côté, je comprends, puisque aujourd'hui, il s'est passé des événements, notamment sur l'affaire de Glasgow, qui font que mes collègues sont très méfiants. Et je pense qu'ils ne veulent plus communiquer avec qui que ce soit, même avec un ancien collègue. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un élément qui soit suffisamment totalement crucial
pour relancer le dossier.
Mais si c'était le cas, évidemment, je serais le premier à envoyer une lettre au tribunal de Nantes pour leur dire il faudrait aller vérifier ça.
Si jamais vous le retrouvez, vous allez lui dire quoi? Si vous avez l'opportunité d'échanger avec lui, vous allez lui dire quoi?
Le retrouver, ce serait formidable. Mais moi, ce que je rêve aujourd'hui, c'est de trouver une trace de lui. déjà. C'est-à-dire que si j'arrive aux États-Unis et que je trouve quelqu'un qui me dit « Voilà, moi, j'ai vu Xavier, je ne sais où, à San Francisco ou à Austin ou je ne sais où », j'aurais gagné. Ça voudra dire que Xavier ne s'est pas suicidé en France et qu'il était aux États-Unis et que l'enquête devra redémarrer depuis le sol américain.
Merci beaucoup, Gilles Gallo, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Évidemment, c'est passionnant et effectivement, on a besoin toutes et tous de faire notre deuil commun parce que cette famille aurait pu être la nôtre et elle fait partie de nos vies. Malheureusement, d'ailleurs, par la force des choses, Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'affaire avec une enquête et des documents inédits, c'est sorti chez Max Milo. Merci infiniment.
Je vous en prie.